Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité, le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine pour lui parler de sa carrière et de son choix de spécialité. Cette semaine, on a reçu Dr. Christian Iorio-Morin, qui est neurochirurgien à Sherbrooke.
Ouais, c'était vraiment un bon épisode. Il a vraiment détruit des idées préconçues, je pense, que j'avais à propos de la neurochirurgie et aussi du type de personnes qui s'en vont en neurochirurgie. Il explique cette profession-là. On voit qu'il y a quand même une bonne qualité de vie qui m'a vraiment étonnée. Si vous voulez vous aussi vous faire surprendre par cette spécialité-là, qui a l'air vraiment d'être une belle spécialité, je vous suggère cet épisode. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Merci beaucoup, Dr. Iorio-Morin, d'être ici, d'avoir accepté l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi.
D'avoir fait la route de Sherbrooke.
Ben ouais, ça se fait bien quand même.
Ouais. Donc, nous, on aime ça commencer un peu au début de votre parcours, là. Est-ce que vous avez toujours su que vous alliez aller en médecine?
Non, en fait, les. Bon, secondaire, c'était beaucoup trop loin. Je pensais pas vraiment à ça. Puis la réflexion est beaucoup venue au cégep où je me demandais, puis ça a toujours été quelque chose qui me tiraillait, est-ce que je vais en musique puis en art ou je vais en sciences? Au début, c'était pas médecine, c'était juste la science en général. Et ça a été une décision difficile puis que j'ai tranché en me convainquant finalement que si j'allais en sciences au cégep, je pourrais faire de la musique en parascolaire, alors que si j'allais en musique au cégep, ce serait dur de faire de la science en parascolaire. Mmh. Alors, au cégep, je suis allé en sciences et à ce moment-là, je suis allé dans un stage d'été où est-ce que je faisais des expériences dans un laboratoire à McGill, en fait, dans le pavillon McIntyre en pharmacologie. Puis, je travaillais sur les récepteurs couplés aux protéines G. Puis, tu sais, j'étais un étudiant de cégep. Là. J'ai aucune idée c'est quoi une protéine. J'ai aucune idée c'est quoi de l'ADN. Puis, je me suis juste trouvé un stage dans lequel il faisait du bénévolat. C'est juste un chercheur qui essayait de redonner au suivant. Là, puis il y avait ses étudiants qui faisaient des vraies choses, puis ensuite, il prenait toujours un petit étudiant par rapport qui avancera rien des projets, qui rendra rien de très, très pertinent à la fin du stage, mais juste pour faire mousser l'intérêt de la jeune génération. Fait que c'était le laboratoire de Hans Zing. Je ne sais pas s'il est sûrement retraité maintenant. C'est un endocrinologue, dans le fond. Et puis, dans son lab, je suis tombé en amour avec la recherche, avec l'espèce de pouvoir juste prendre une cellule, lui injecter de l'ADN, puis qu'elle devienne verte ou fluorescente, ou tu sais, cette espèce de contrôle-là sur la vie que je trouve absolument fascinant. Puis, à un moment donné, je me suis assis dans le bureau de Dr. Zing, puis je lui ai dit, Dr. Zing, moi, je veux faire de la recherche. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais-tu en biochimie? Je m'en vais-tu en pharmaco? Puis il m'a dit, non, si tu veux faire de la recherche, va-t'en en médecine. Fait que c'est comme ça que j'ai été vers la médecine. C'était pas initialement pour l'attrait des patients ou l'attrait des soins, autant que pour l'attrait de la recherche. Moi, ça a vraiment commencé comme ça. Puis, Dr. Zing m'a dit, si tu veux faire de la bonne recherche, fais ta médecine, puis ça va te donner un but. Ça va te donner des patients qui ont des problèmes, qui sont dans ton bureau, puis que tu dois leur dire, je peux rien faire pour vous. Puis, ça va être ça, ta motivation après ça à faire de la recherche puis développer des nouvelles affaires parce que tu vas avoir un visage sur les maladies que tu essaies de traiter. Fait que ça l'aide à rester pertinent, à rester appliqué, puis ça donne une espèce de motivation. Alors aujourd'hui, je suis un clinicien-chercheur, donc j'ai 50% de ma pratique qui est de la chirurgie, de la clinique avec les patients, mais j'ai 50% de ma pratique qui est purement de la recherche. Puis ça répond à deux besoin. Tu sais, t'as la médecine au jour le jour qui est extrêmement valorisante. Tu vois les gens, tu les traites, les gens sont contents, c'est le bonheur. Mais au final, jour après jour, c'est toujours la même chose et les gens vont tous mourir quand même éventuellement. Puis après, tu te dis, ben, qu'est-ce qui va rester de ça dans 30 ans? Autre le fait que tu as aidé des gens, là, c'est merveilleux, mais c'est très éphémère puis instantané comme valorisation, alors qu'en recherche, c'est épouvantablement déprimant au jour le jour. Il n'y a rien qui marche, tout est compliqué, mais là, quand ça marche après une couple d'années, que tu travailles sur quelque chose, ben là, ça marche pour toujours, pour tout le monde.
Une différence long terme.
Ouais, fait que là, en recherche, t'as l'espèce de valorisation long terme, puis de dire, ben regarde, ça, c'est un peu l'héritage que je vais laisser pour la société, alors que dans la pratique, ben t'as ce qui fait que comme j'ai le goût de me lever aujourd'hui, puis que je suis pas déprimé parce que comme ça, en clinique, ça fonctionne, alors qu'en recherche, ça marche pas, tu sais. Ouais. Alors, ça a été très... à droite, à gauche, en zigzag comme ça, sans avoir nécessairement un parcours... absolument très défini là, d'avance. Là. C'était pas décidé.
Donc, est-ce que vous êtes rentré après le cégep?
Ouais. Fait que je suis rentré, j'ai fait mon cégep à Bois de Boulogne en sciences nat. Ensuite, je suis rentré directement en médecine à l'Université de Sherbrooke. Mais comme je savais déjà que je voulais faire de la recherche, j'ai fait d'emblée un programme MD-PhD. Puis à ce moment-là, je savais pas quelle résidence m'intéressait. Je savais juste que je voulais faire de la recherche. Alors, je me suis dit, je vais me choisir un sujet de recherche qui n'aura aucun rapport avec la clinique, qui va être le plus loin possible de ce que je vais pouvoir voir en clinique parce que j'avais peur, puis avec raison en rétrospect, que quand je mettrais le pied dans l'hôpital, j'aimerais ça puis je voudrais plus ressortir. Fait que je me suis dit, je vais clairer ça tout de suite. Parce que si je mets le PhD à plus tard, je me connais, là, je vais être lâche, je vais abandonner, puis je le compléterai pas. Fait que je suis allé faire un PhD sur la modulation de l'apoptose par les récepteurs couplés aux protéines G. C'est quelque chose que les médecins ne pourront pas m'apprendre. Je suis allé en pharmaco, dans une affaire hyper fondamentale. J'ai appris à transfecter des cellules, faire du génie génétique. T'sais, des affaires qu'il n'y a personne dans l'hôpital qui fait au jour le jour, puis qui servent à rien pour un patient, là, en disant, ben ça va être quelque chose que je peux pas apprendre par moi-même. T'sais, c'est toujours un petit peu ça, l'objectif d'une formation. T'sais, c'est d'apprendre, c'est que l'école t'apprenne des choses que tu peux pas juste apprendre toi-même en lisant.
Ouais.
Donc, le doctorat, moi, c'est beaucoup comme ça que je l'ai approché. Fait que je suis rentré du cégep en médecine, je suis allé faire un MD-PhD, j'ai fait mon PhD en pharmaco et ma médecine. Et là, à la fin des études médicales, à l'époque, à l'Université de Sherbrooke, on faisait le LMCC comme en mai ou... Mais en tout cas, il nous restait comme un stage à option à la fin, après l'examen.
C'est comme un examen écrit, ça?
Ouais, fait ben, le MCCQE, okay, là. Okay. Fait que le LMCC, fait que tu sais, l'examen final de médecine, là, dans le fond, il était comme au mois de mai, puis au mois de juin, on avait un stage... À la fin, là, tu sais, juste pour...
Après.
Un petit bonbon. Fait que tu sais déjà que ta résidence, c'est quoi, tu sais déjà tout, puis fait que t'as un stage à faire. Fait que là, nous, tout le monde avait, en tout cas, à ce moment-là, j'étais déjà matché en neurochirurgie, puis la majorité des gens prenaient un espèce de stage d'anatomie, là, pour être un petit peu plus relax, puis avancer, dans le fond, dans les programmes chirurgicaux. Puis... pour une raison dont je ne me rappelle plus, le stage a été annulé avec comme 3 semaines de préavis. Donc, je suis arrivé à la fin, j'avais plus de stage et ils nous ont dit à tout le monde, ben, tu sais, trouvez-vous quelque chose d'autre. Fait que j'étais sur Internet, je cherchais qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai toujours adoré l'espace. Okay? À un moment donné, je voulais être astronaute, puis j'ai toujours été fasciné par l'exploration spatiale. Fait que je me suis dit, hey, il y a des médecins qui travaillent à la NASA. Fait que je suis allé sur le site de la NASA, puis j'ai trouvé un stage en médecine aérospatiale à Houston. Fait que j'ai écrit... avec 3 semaines de préavis.
C'est ça, 3 semaines, wow.
En disant, ben écoutez, auriez-vous de la place pour un stage dans 3 semaines? Et puis, ils m'ont dit, ben non, pas du tout. Fait que là, j'ai écrit à l'Agence spatiale canadienne, qui m'ont dit « Ah, ben oui, ça pourrait s'arranger », qui m'ont renvoyé à la même fille à laquelle j'avais parlé initialement, qui a dit « Ah, ben oui, vu que c'est par l'Agence spatiale canadienne ». Fait que là, ils m'ont comme pris en stage, je me suis pointé là, et puis je suis arrivé à Houston. Fait que là, c'est mon dernier stage d'externat avant de commencer la résidence. Je fais 2 semaines où est-ce que c'était vraiment de la recherche. Dans le fond, je travaillais sur la pharmacie du vaisseau spatial. Fait que, tu sais, le vaisseau spatial Orion qui est conçu pour aller vers la planète Mars là, dans les missions éventuelles, ben, moi, j'étais responsable de dire comment qu'on va garder les médicaments dans l'espace pour pas qu'ils expirent. Fait que, tu sais, à quelle température on va les garder, quel taux d'humidité, comment qu'on va les protéger des radiations. Fait que, là, pendant 2 semaines, là, je fais ça, puis c'est super plate puis déprimant parce que essentiellement, t'es devant un ordi, tu vois pas personne autour de toi. Ils sont tous partis en congrès, tu sais, à Chicago pour le congrès d'aérospatial. Fait que moi, je suis comme à Houston, toute seule, dans un building en béton, à voir personne devant PubMed à chercher la température optimale de conservation des médicaments, tu sais. Fait que là, je fais mes affaires, puis je suis comme vraiment fâché, finalement, d'être allé, tu sais. Et là, après comme 1 semaine et demie, Chris Hadfield, qui était à ce moment-là commandant de la station spatiale, atterrit sur Terre. Fait que là, je me dis, écoute, je suis à Houston, il atterrit 7 semaines. Là. Fait que j'écris à l'agence en disant, je suis à Houston, je suis badgé, pensez-vous que je pourrais comme juste rencontrer l'équipe canadienne qui va le recevoir, tu sais? Fait que là, je reçois un message du médecin de Chris Hadfield, Rafi Kuyumjian, qui est à ce moment-là là, qui dit, écoute, viens me rejoindre au Starbucks demain à 3h, tu sais. Je me pointe au Starbucks et puis je m'assois avec Rafi, puis on commence à parler de, tu sais, il m'explique un peu c'est quoi leur travail, c'est quoi la médecine aérospatiale, puis un peu comment le processus de réadaptation fonctionne. Puis là, on finit la conversation, puis il me dit, ben écoute, t'es-tu un peu en avance dans tes choses de stage? Puis là, je dis, ben ouais, moi, mon rapport est pas mal déjà fini, tu sais, j'ai avancé ça, tu sais, c'était plate un peu. Là, il dit, ben écoute, rejoins-moi demain à 8h, puis tu feras les 2 dernières semaines en réadapte avec nous.
Oh, t'sais?
Fait que là, je capotais, je retourne chez nous, j'appelle ma blonde. « Hey, tu devineras pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai rencontré l'équipe, nanana. » Pendant que je suis au téléphone avec ma blonde, le téléphone sonne. Puis sur l'autre ligne, c'est marqué « David Saint-Jacques ». Fait que là, j'appelle. Puis David Saint-Jacques, c'est un des anciens gradués de McGill qui est allé en médecine et de famille, puis qui a fini astronaute. C'est notre dernier astronaute qui est monté dans l'espace. Puis là, David m'appelle, il me dit « Salut, on se connaît pas, mais Rafi m'a dit que tu étais là. On fait un souper pizza pour le retour de Chris Hadfield. Ça te tente-tu de venir? » Fait que là, je dis « Ben oui, écoute, je vais… » Fait que là, je me pointe là. Puis là, j'ai rencontré toute cette équipe-là qui sont devenus comme des amis. Après, j'ai passé comme toute la suite du stage en compagnie de ces gens-là qui m'ont appris énormément de choses, qui ont toutes pas rapport à la médecine, qui ont toutes pas rapport à la recherche fondamentale, mais qui ont complètement changé un peu la manière dont j'approche les choses. C'est qu'ils m'ont montré comment interagir, des entrevues médias, des affaires de même, comment tu gères ça, comment gérer le travail d'équipe quand tu as des situations un peu hiérarchiques, fortes, tu sais, quand tu as un astronaute avec tous les autres, tu sais, ou que tu as comme une espèce de situation d'idole avec les fans, comment tu gères ça pour être capable que tout le monde se sente bien, comment avancer dans les choses. Puis de remettre les choses en perspective aussi, où ce que je me suis rendu compte, c'est que pour le volet être un astronaute, mais être un astronaute, c'est 15 ans sur Terre à écrire des procédures et 6 mois dans l'espace pour exécuter les procédures. Et ça m'a énormément réconforté avec le fait que, dans le fond, c'est pas ça pantoute que je veux faire, parce que j'haïs ça, être au sol puis écrire des procédures. Mais ce qui est devenu extrêmement clair quand je parlais à David, puis qui est vrai pour tous les choix de spécialité, c'est que ce qui compte dans une spécialité, c'est d'aimer ce que tu fais au jour le jour. Mm-hmm. C'est d'aimer la job aujourd'hui, demain, après-demain. C'est de te lever puis d'aimer ce que tu fais. Peu importe comment c'est compliqué de s'y rendre, puis comment est-ce que tu fais, tu ne deviens pas astronaute pour flotter dans l'espace.
Mm-hmm.
Tu deviens astronaute parce que tu aimes réfléchir à ces choses-là, t'aimes planifier des procédures, planifier des sorties dans l'espace, planifier plein d'affaires qui font en sorte que quand tu vas te lever le matin pendant 15 ans, tu vas être heureux, même si tu ne décolles pas.
Mm-hmm.
T'sais? Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très transférable, je pense, dans notre pratique puis dans notre vie de tous les jours. Fait que j'ai fini mon externat avec cette espèce de stage-là vraiment incroyable. Puis, j'ai commencé la neurochir. Et là, en neurochir, j'ai fait mes 6 ans, dans le fond, à l'Université de Sherbrooke.
Okay.
Et là, en neurochirurgie, après mes 6 ans, je me suis spécialisé dans un domaine de la neurochirurgie qui s'appelle la neurochirurgie fonctionnelle. Donc, ça, c'est une partie de la neurochir où, au lieu d'essayer de traiter la maladie, on essaie de traiter le symptôme. Donc, par exemple, si vous avez une tumeur au cerveau puis que vous êtes paralysé, bien, le traitement, c'est d'enlever la tumeur. T'sais, ça, c'est la neurochirurgie oncologique. Si vous avez une hémorragie cérébrale à cause d'une anomalie vasculaire, un anévrisme qui saigne, bien, le traitement, c'est d'aller sécuriser l'anévrisme pour pas qu'il ressaigne. Ça, c'est la neurochirurgie vasculaire. Si vous avez une fracture de la colonne vertébrale parce que vous avez plongé tête première dans une piscine pas creuse, bien là, vous avez besoin de vis pour réparer la colonne. Ça, c'est la neurochirurgie spinale. Mais il y a des situations où on ne peut pas guérir le problème. Fait que par exemple, vous êtes paralysé à cause de la sclérose en plaques. Mm-hmm. Vous avez de la douleur à cause d'un diabète. Vous avez des troubles du mouvement à cause du Parkinson. Peu importe le mouvement, vous avez des hallucinations, de la douleur, des paralysies, peu importe. Si vous avez un symptôme neurologique qui est causé par une cause incurable, en neurochirurgie fonctionnelle, l'approche, c'est de dire, ben, je ne peux pas enlever l'AVC, je ne peux pas enlever la sclérose en plaques, mais je peux aller jouer sur le circuit qui cause le symptôme. Donc, si tu as un tremblement essentiel, par exemple, il y a un court-circuit dans le cerveau qui fait que les bras bougent à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, bien, on peut aller à cet endroit-là dans le cerveau puis mettre une électrode là ou brûler cette zone-là et corriger le court-circuit. Si quelqu'un a de la douleur, bien, on peut aller couper le nerf qui fait mal ou mettre un stimulateur sur le nerf qui fait mal pour essayer de cacher la douleur. Donc, la neurochirurgie fonctionnelle, ça s'intéresse à ça, la spasticité, les troubles du mouvement, les troubles psychiatriques. Et puis, c'est d'utiliser des différentes technologies, là, soit de brûler des nerfs, brûler des circuits ou de mettre des électrodes pour les stimuler, pour interférer avec les circuits puis essayer d'améliorer la qualité de vie des patients.
Mmh.
Fait que, j'ai fait 6 ans de neurochirurgie, ensuite j'ai fait 1 année de neurochirurgie fonctionnelle à l'Université de Toronto.
Okay.
Et puis ensuite, je suis revenu à Sherbrooke. Puis là, maintenant, j'ai commencé une pratique, dans le fond, en 2020, où je suis neurochirurgien-chercheur. Fait que j'ai une pratique clinique de neurochirurgie fonctionnelle. Fait que surtout de la douleur, névralgie du trijumeau, douleur chronique, troubles du mouvement, troubles psychiatriques. Puis ensuite, j'ai un autre 50% où là, je fais de la recherche sur ces mêmes sujets-là, dans le fond.
Mm-hmm. Moi, je vais revenir un peu à l'arrière. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi la neurochirurgie. À quel moment vous êtes dans votre parcours en médecine, vous dites, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire?
Bien, c'est arrivé, je pense, premièrement, en première année, quand on a fait la phase du système nerveux où je trouvais qu'on comprenait pas comment ça fonctionnait. T'sais, je trouvais que ça avait l'air d'un gros ordinateur vraiment compliqué. Il y avait plein d'imageries, t'sais, de scans, d'IRM qui sont quelque chose de vraiment le fun à faire. Il y avait des symptômes bizarres, là, t'sais, des hallucinations, des psychoses, de la paralysie. Puis ça pouvait tout être un peu expliqué par un bug dans un programme informatique. Tu sais, c'est, moi, c'est l'espèce de vision que je me suis faite quand on a eu notre phase de neurologie puis qu'on a vu un peu les problèmes. Puis quand j'étais rendu à l'externat puis je regardais qu'est-ce que j'aime en médecine, mais tu sais, dans le fond, j'aime les ordi, tu sais, j'aime les affaires un peu geek, la technologie. J'aimais beaucoup l'imagerie, fait que j'ai considéré la radiologie. Puis j'aimais vraiment beaucoup la psychiatrie. J'aimais les patients là, que tu regardes, puis t'es comme, il y a quelque chose qui tourne pas. Il y a clairement un court-circuit dans son cerveau. Un patient qui a un trouble obsessif compulsif, là, un peu floride, là, c'est tu regardes ça, puis tu te dis, il y a un court-circuit, là, c'est sûr. Là, la poignée de porte est propre. T'sais, arrête de te laver les mains. La poignée de porte est propre. Mais ils sont pas capables de juste accepter qu'ils vont pas se faire contaminer. Fait que je regardais ça, puis j'adorais la psychiatrie. Puis, je trouvais que la neurochirurgie englobait vraiment toutes ces facettes-là. Mm-hmm. Tu sais, c'est une spécialité où on est capable de lire et d'interpréter nos propres images radiologiques. Souvent, quand il y a un trauma qui arrive ou une urgence, le scan est fait. On est dans la salle de scan avec le patient, on regarde les images, puis par le temps que le radiologiste est fini de l'interpréter puis nous appelle, souvent on est déjà en salle d'opération en train de commencer la chirurgie. Puis là, on parle avec le radiologiste, il nous dit « Hey, t'as-tu vu telle affaire sur le scan? Fais attention, j'ai vu telle veine qui est un peu inhabituelle. » Mais on a déjà, tu sais, on sait déjà qu'est-ce que c'est. Puis ça, c'est le fun parce que dans l'hôpital, ça donne un niveau de collaboration avec ces gens-là où tu sais, quand j'appelle le radiologiste, on a un trait, tu sais, puis qu'on se parle d'un IRM, on se comprend, tu sais, on a un niveau de discussion qui est différent parce que on cherche pas, parce qu'on comprend les examens dans le fond qu'on fait, on est capable de les interpréter, puis ils nous enseignent, tu sais, à les interpréter adéquatement. Fait que la neurochirurgie, c'est une spécialité qui allie tout cet aspect-là, imagerie, que si vous aimez, ben il est là. Tout l'aspect chirurgical, j'aimais ça faire quelque chose, tu sais, prendre un bistouri, couper de la peau, tu sais, j'aimais ça. Mais je ne sais pas le gars le plus technique, tu sais, qui aime à tout prix, là, recoudre des intestins, là. Tu sais, j'aimais avoir un bistouri puis avoir l'impression de faire quelque chose, mais tu sais, juste assez, mais pas trop, tu sais. fait qu'en neurochir, ben t'as cette affaire-là. Ensuite, t'as toute la gravité des pathologies qu'on traite. Fait que, tu sais, toute l'espèce d'approche au patient, annoncer que le petit gars est mort dans l'accident d'auto, tu sais, que leur grand-mère survivra pas à son hémorragie, que le monsieur a une tumeur incurable. C'est un art de l'annoncer. Puis d'expliquer ça aux gens. Puis souvent, tu te ramasses avec des pathologies extrêmement graves en neurochirurgie pour lesquelles tu peux pas rien faire. OK? Puis tu peux essayer des choses, mais ça marchera pas. T'sais, on peut l'opérer, on peut sauver sa vie, mais on peut traiter la tumeur, mais on peut pas guérir la tumeur. Puis quand on est devant des situations comme ça, ce qui compte, là, encore plus que la chirurgie que tu fais, c'est l'expérience que tu fais vivre au patient. C'est comment tu lui annonces, comment tu lui expliques pour qu'il soit le plus possible en paix avec le diagnostic que tu lui annonces puis que tu ne peux pas changer. Fait que ça, tout cet aspect un peu philosophe, accompagnateur, communication, c'est quelque chose qui était très, très présent en neurochirurgie puis que j'aimais aussi. Puis que j'ai pas retrouvé avec le même niveau d'intensité dans les autres spécialités. Fait que j'avais l'imagerie, le côté geek, la chirurgie, l'intensité de la relation avec les patients. Puis la dernière chose, c'était le fait que, tu sais, je veux dire, nos traitements marchent pas, puis les pathologies sont pas réglées. Tu sais, fait que ça donne une espèce de potentiel à la recherche extrême, tu sais, où est-ce que si tu veux faire de la recherche sur n'importe quoi, ben regarde, c'est ouvert, là. Il y a rien qui marche, dans le fond, là. Fait qu'on a le champ libre pour être créatif puis inventer des choses, là.
Puis une fois que vous avez su que vous vouliez aller en neurochirurgie, vu que c'est quand même compétitif, comment vous avez fait pour mettre les chances de votre côté?
Ça, c'est un défi. Présentement, il y a 2 postes par année au Québec qui sont ouverts en neurochirurgie. Il y en a plus que ça, évidemment, c'est pour les gens qui appliquent partout au Canada. Au Québec, les candidats qui appliquent sont excellents. Puis, ce qui fait que tu vas être pris ou que tu ne seras pas pris, là, tu sais, ça devient beaucoup une question de approche, personnalité, les choses intangibles, plus que purement le dossier académique. Parce que les 10, 15 personnes qui appliquent, ils ont tous des excellents dossiers académiques, tu sais. Puis, donc, je pense que pour appliquer puis être compétitif dans l'application, ben il y a... Oui, là, avoir des bons commentaires, des bonnes références, tout ça. Il y a certains programmes plus que d'autres, mais où la recherche est valorisée. Donc, d'avoir une formation en recherche ou un intérêt en recherche, ça peut aider, mais c'est surtout d'être quelqu'un, puis là, je parle en tant que quelqu'un qui est rentré en neurochirurgie, mais surtout en tant que quelqu'un qui maintenant regarde les candidats puis participe à la sélection. Puis quand je suis avec quelqu'un pour la sélection, une des choses qu'on se demande, c'est est-ce que je veux travailler avec cette personne-là? Ouais. Est-ce que je veux passer 12 heures consécutives en plein milieu de la nuit avec cette personne-là? Puis savoir que comme quand tout va aller mal puis que le patient va être en train de mourir, est-ce que c'est avec cette personne-là que je veux être? Puis est-ce que cette personne-là, sous stress, va être capable de rester gentille, tu sais, puis de rester une bonne personne, puis de rester quelqu'un qui est positif envers l'équipe, puis qui n'enverra pas promener les infirmières à 2 heures du matin parce que les infirmières ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est leur premier shift en neurochir, puis qu'est-ce que tu veux? C'est des infirmières de gynéco. Fait que là, sont en temps supplémentaire en neurochir. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, je pense, qui fait la différence entre le top 6, là, pour les 2 positions. C'est qui la personne que, quand on la regarde, on a le feeling que c'est la personne qui a le plus le people skill, tu sais, la façon d'être un leader dans son équipe, la façon de rassembler les gens, puis de pas s'écrouler sous pression, puis de rester quelqu'un de positif, tu sais, qui deviendra pas déplaisant, parce que c'est une résidence stressante, c'est une résidence qui est épuisante, c'est une résidence qui a des longues heures. Puis moi aussi, je suis fatigué à 3 heures du matin sur une urgence. Puis la dernière chose qu'on a le goût, c'est d'être avec plein de monde fatigué et déplaisant. Tu sais, fait qu'on essaye d'être avec du monde puis de s'entourer de monde qui vont être positifs.
Agréable, genre.
Vous devriez faire vos entrevues à 3 heures du matin.
Ça pourrait peut-être être une bonne stratégie de recrutement. Mais non, mais il y a une année, où dans les entrevues, on leur a fait un escape room. On les a mis dans un... je peux vous le dire parce que les étudiants se le disent, mais on les a mis dans un escape room, puis on les a mis toute la gang ensemble. Puis on a regardé c'est qui m'énerve, puis que je veux pas comme avoir dans ma salle d'op, là, tu sais, dans les 8. Puis c'est qui que, comme cette personne-là, a rien trouvé, mais a fait avancer tout le monde, puis est un point positif à l'équipe, tu sais. Puis... ce qui est fascinant, c'est que souvent, la performance dans des tâches comme ça ressemble beaucoup aussi à la performance académique, puis ressemble beaucoup au CV. T'sais, fait que quand on compare, t'sais, mettons, les notes des gens sur l'escape room, les notes des gens sur leurs notes, les lettres de référence, souvent, ça corrèle. T'sais, c'est bien rare qu'on a des surprises, mais ça te montre que être un bon médecin, c'est un tout. Puis que, tu sais, les connaissances brutes, c'est évidemment essentiel, mais c'est pas suffisant pour être un bon médecin, tu sais. Puis c'est pas suffisant pour faire une bonne annonce à quelqu'un qui a une tumeur incurable qui va mourir dans 6 mois. Tu sais, ça prend plus que juste savoir qu'il y a une tumeur incurable qui va mourir dans 6 mois. Tu sais, la manière de l'annoncer est importante. Puis c'est quelque chose qu'on essaye de détecter dans les candidats, là.
Oui, puis justement, c'est ça. Y a-t-il des caractéristiques en particulier que vous diriez qu'en neurochirurgie, il faut avoir absolument?
Je pense que le plus important, c'est probablement la passion de du sujet. Parce que c'est la seule chose qui fait que les heures sont le fun, puis que les gens on reste de bonne humeur. Tu sais, au sens où si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas être déplaisant, peu importe si t'es une bonne personne ou pas. Là. Ouais. Moi, je me rappelle le stage le plus difficile que j'ai eu de ma vie, là, c'était mon stage d'externat en pédiatrie. Okay? Pas parce que les heures ou le sujet était intellectuellement pire qu'ailleurs, mais juste parce que on était comme en plein milieu de l'été. Personne n'était malade. Okay? L'étage était super tranquille. On arrivait, on avait comme 3 patients. Là. C'était vraiment une semaine morte. T'sais. On avait 3 patients, puis il y avait toutes des choses qui ne m'intéressaient pas tant. Puis là, je trouvais ça pénible là, d'aller les voir, d'écrire ma note, de lire sur leur maladie. Puis on faisait des petites heures, puis c'était pas stressant. Puis après ça, t'arrives dans l'autre stage où est-ce que comme ça pisse le sang, tout va pas bien, il y a 40 patients hospitalisés, puis là, je voyais pas le temps passer. T'sais.
Pour certaines personnes, ça, c'est un cauchemar, mais...
Ben oui, mais c'est que le cauchemar, c'est de faire quelque chose que t'aimes pas.
Ouais.
T'sais, le cauchemar, c'est pas de faire les heures, c'est pas d'étudier longtemps. Le cauchemar, c'est d'être pris à faire quelque chose qui t'intéresse pas. Puis moi... La pédiatrie, puis j'adore la neurochirurgie pédiatrique. Là, mais la pédiatrie, c'était un cauchemar parce que j'aime pas ça, les otites. Je sais pas quoi te dire, j'aime pas ça. Puis même si les heures étaient pas grandes, j'ai trouvé ce stage-là plus long que mon stage de neurochir, qui avait des plus longues heures, puis plus de patients, mais que j'en mangeais, puis je voyais pas le temps passer. Fait que je pense que c'est vrai pour n'importe quelle des spécialités. Ce qui compte, c'est d'arriver dans un sujet que t'aimes le sujet, puis t'en manges. Puis c'est ça qui fait que la résidence puis la garde est tolérable. T'sais, personne n'aime ça, là, se lever à 3 heures du matin. T'sais. Mais te lever à 3 heures du matin pour faire quelque chose que t'aimes versus te lever à 3 heures du matin pour faire quelque chose qui t'énerve, bien ça, c'est la différence entre tu vas tomber en burn-out puis tu voudras plus faire ça, puis tu vas être capable de le faire, puis tu vas t'amuser en le faisant. Puis je pense que c'est beaucoup la clé du succès. Fait que pour la neurochir, faut arriver dans le stage, voir les pathologies, puis se dire comme « wow, c'est incroyable comme problème, puis j'en reviens pas qu'on est capable de faire quelque chose pour ça. » Puis si tu as cette espèce de déclic-là, je pense qu'après ça, le reste a moins d'importance. Si tu n'as pas ce déclic-là ou qu'il y a un doute, va pas en neurochir. Prends autre chose.
Qu'est-ce que vous diriez sur les habiletés manuelles? Est-ce qu'il t'en faut quand même beaucoup ou ça s'apprend bien?
Ça, c'est une balance. Là, puis après ça, dans la neurochir, il y a des parties plus techniques puis des parties moins techniques. Je pense qu'il faut que tu aies un minimum d'habileté manuelle. Si t'as les mains pleines de pouces, ben, puis que t'es pas capable de rien faire, peut-être pas, mais t'as pas besoin d'être le plus manuel de l'univers là, pour faire ça. Parce que la réalité, c'est que il y a beaucoup des chirurgies maintenant qu'on fait au bout d'instruments, ou qui, t'sais, comme mettons, moi, en neurochirurgie fonctionnelle, le gros de ce que je fais, c'est tourner des vis, changer des coordonnées, puis, tu sais, on rentre des aiguilles dans le cerveau, mais via des guides. Fait que, tu sais, quand même que tu trembles un peu, c'est pas dramatique, tu sais. Il y a moyen de calibrer ta pratique en fonction de tes habiletés manuelles. Fait que oui, ça prend des habiletés manuelles, tu sais. Je veux dire, t'es un chirurgien, tu vas faire des points de suture, tu vas ouvrir la peau, disséquer de l'arachnoïde. Ça prend comme un minimum, mais je pense pas que ça prend un minimum super haut... Contrairement à d'autres spécialités où c'est peut-être plus vrai, tu sais, par exemple, la chirurgie vasculaire, tu sais, où là, c'est beaucoup plus des points sur des vaisseaux qui doivent être étanches. La neurochirurgie, ça demande moins de précision. Tu sais, ça demande plus de connaissances anatomiques. Puis, tu sais, si tu mets ton électrode 1 mm trop à gauche ou trop à droite, ça ne marchera pas. Fait que, tu sais, ça demande une haute précision. Mais la précision vient des instruments. Okay. Elle vient pas nécessairement de ta main, que le point doit être exactement là, sinon ça va fuir, tu sais. Fait qu'après ça, en neurochirurgie, il y a des choses qui demandent plus de dextérité manuelle que d'autres. T'sais, la neurochirurgie vasculaire, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu sois top-notch manuellement, tu sais. Mais la neurochirurgie trauma ou la neurochirurgie comme moi que je fais de la fonctionnelle, la précision est fournie par la technique d'insertion puis l'instrumentation que tu utilises et non pas par tes mains. T'sais. La précision vient de ton cerveau puis de comment tu choisis les coordonnées puis de où est-ce que tu décides d'aller. Puis c'est ça qui est un déterminant du succès. T'sais. Fait que je ne me mettrais pas les habiletés manuelles comme le critère le plus gros dans la sélection. Faut aimer la chirurgie. Il faut aimer le sang, puis faut aimer être dans une salle, puis faire des choses manuelles. Mais pas autant que, par exemple, quelqu'un qui irait en chirurgie cardiaque ou en chirurgie vasculaire.
S'arrêter à ça.
Oui, c'est ça. Parce qu'en chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, c'est vraiment juste ça. Là. C'est la valve, elle ne marche pas, il faut changer la valve, puis c'est vraiment un défi technique. En neurochir, moi, 90% des cas que je fais, le défi, c'est pas de faire la chirurgie, le défi, c'est de décider quelle chirurgie que je fais, puis quel nerf que je vais traiter, puis comment je vais le faire, puis toute la finesse de la spécialité est dans le choix de la cible, plus que dans se rendre à la cible et faire quelque chose dessus.
Ah, fait que t'es dans le raisonnement avant la chirurgie, en fait.
Ouais.
Ah, c'est vraiment intéressant.
C'est ça que j'allais demander, justement, quelle proportion du temps que vous passez, mettons, en salle d'op versus clinique?
Fait que, tu sais, moi, dans ma semaine typique, là, je vais faire une journée de salle d'op, je vais faire une journée de radiochirurgie. Fait que chez nous, dans mon centre, c'est du Gamma Knife. Si j'étais au CHUM, ce serait du Cyber Knife. Fait que, tu sais, chaque centre un peu sa plateforme de radiochirurgie qu'il utilise. Fait que la radiochirurgie, c'est une sorte de radiothérapie, mais à haute précision, qu'on utilise pour faire des lésions dans le cerveau, brûler des choses. Fait que, par exemple, des métastases cérébrales de petite grosseur, bien, on les zappe avec de la radiation. Puis ça, les neurochirurgiens sont impliqués là-dedans autant que les radio-oncologues. C'est quelque chose qu'on partage puis qu'on fait ensemble. Puis les plans sont signés par un radio-oncologue et par un neurochirurgien. Fait que moi, j'utilise un appareil qui s'appelle le Gamma Knife pour brûler des nerfs, traiter des névralgies du trijumeau, brûler des courts-circuits dans le tremblement, dans le Parkinson. Fait qu'une fois par semaine, une journée par semaine, je fais des traitements de radiochirurgie. Une journée par semaine, je fais des traitements en salle d'opération. Une demi-journée par semaine, on a des activités académiques pour le programme de résidence. Fait qu'on donne des cours, assiste à des cours, on fait des examens, on fait des clubs de lecture, des choses comme ça. Et là, le reste du temps, c'est en théorie de la recherche. Fait que j'ai 2,5 jours de clinique, 2,5 jours de recherche. Puis là, si vous faites le calcul rapide, ben là, il n'y a aucun moment là-dedans où je vais des gardes, puis aucun moment là-dedans où je vois des patients en clinique. Fait que là, ça se rajoute comme par-dessus. Fait que nous, de la manière qu'on est organisé, on va faire une semaine complète de garde. Fait qu'un 7 jours consécutifs. En même temps que ce programme-là. T'sais. Fait que si, je sais pas, moi, je suis en train d'opérer, puis y a un trauma qui rentre, ben tu sais, on va rentrer le trauma, puis là, tu sais, je vais m'arranger avec un collègue pour que les deux salles soient couvertes. Si je suis en clinique ou en recherche, puis y a un trauma qui rentre, ben là, moi, je vais y aller. Mm-hmm. Puis après ça, on a une équipe de résidents qui nous aide à faire plusieurs choses en même temps, là, tu sais. Donc, ça ressemble à ça, puis j'essaie d'avoir le moins de cliniques externes possible, là. Fait que, tu sais, j'en fais peut-être une par deux semaines, là, où est-ce que je vais faire une journée complète de clinique externe, où est-ce qu'on voit les patients, on fait les suivis de ces patients-là, on les cédule pour les chirurgies. Puis après ça, j'ai toute une équipe avec moi qui m'aide, fait que, tu sais, des infirmières cliniciennes qui m'aident avec les suivis des patients qu'on a traités, reprogrammer les neurostimulateurs, des choses comme ça qui font vraiment que ça fonctionne puis que l'horaire se tient. Là, fait que sans cette aide-là qui vient des infirmières cliniciennes, je serais pas capable de faire la recherche. Faudrait que je passe toute la balance de la semaine à faire la clinique. Alors là, on a réussi à se monter un système où est-ce qu'on a des infirmières qui sont incroyables, qui arrivent à tout prendre ça en charge. Puis là, quand il y a des problèmes, ils m'appellent. Mais tiens, moi, ça me permet d'être au lab puis d'avancer des choses avec les étudiants. Puis les infirmières, eux, s'occupent des suivis de ces patients-là. Là.
Puis là, dans toute cette horaire-là, il me semble que ça a l'air bien chargé. Est-ce que vous êtes quand même capable d'avoir une balance vie à l'extérieur de l'hôpital ou vous passez pas mal tout votre temps à l'hôpital?
Oui, ça se passe très bien de ce côté-là. En neurochirurgie, ce qui est plus difficile pour la conciliation travail-famille, c'est la résidence. Mais une fois que la résidence est terminée, quand tu es patron en pratique, là, c'est beaucoup plus facile. Puis la grosse différence, c'est que quand tu es résident, ta job, c'est de t'occuper de tous les patients tous les jours et d'être au bloc tous les jours. Fait que tu opères 5 jours sur 7. Puis avant et après le bloc qui est de 8 à 4, bien là, tu gères tous les patients hospitalisés. T'sais. Fait qu'il faut commencer tôt, puis ça finit t'sais, tard. Là. Nous, à Sherbrooke, pendant ma résidence, habituellement, on commençait à 6h30-7h. Et puis, on essayait d'être parti pour 5h30-5h45. Fait que ça fait des grosses journées. T'sais, 6h30 à 5h30, c'est 11h. Là. Fait que ça fait des grosses journées. Et ce qui est le plus difficile, c'est que tu n'as pas de contrôle sur ça. Fait que si tu arrives une journée, puis là, le patron a décidé « Ah, aujourd'hui, nous allons faire un méningiome. On en a pour 20 heures t'sais, de chirurgie. » Mon record avec Dr. Effendi sur une chirurgie de la base du crâne, c'était 27 heures consécutives.
De chirurgie?
27 heures consécutives. J'ai aucun plaisir à faire des choses comme ça.
Sans pause.
Ben. Dans le fond, on était deux, fait qu'on alterne, tu sais, okay. Tu vas faire pipi, manger, puis ensuite, là, tu prends le cas, puis là, l'autre s'en va faire pipi, manger, faire des téléphones, puis tu sais, t'alternes comme ça.
Oh, wow.
J'ai aucun plaisir à faire ces affaires-là. Mais c'est pas ce que j'ai choisi dans ma sur-spécialité, tu sais. Fait qu'en base du crâne, il y a des cas comme ça qui sont infinis, là, puis que tu peux juste s'opérer pour toujours sur le même patient. Fait que ça, si c'est ce qui t'allume, ben tu vas en chirurgie de la base du crâne. Tu sais, puis il y a une infinité de cas possibles où on peut faire ça. En neurochirurgie fonctionnelle, il n'y a pas ça. Là, tu sais, en oncologie standard, les cas durent environ 4 heures, puis tu sais, t'en fais 2 dans la journée, puis ça va bien. Mais la grosse différence, c'est que quand t'es patron, si ton fils a une partie de soccer à 6 heures, ben tu peux décider qu'aujourd'hui, je ne me mettrai pas de cas qui finit à minuit. Tu comprends? Je vais mettre cas qui finissent tôt, puis des cas qui sont courts, puis pas trop stressants. Puis s'il faut que je parte demain en congrès ou que je suis dans un lendemain de garde, bien, je vais mettre des cas qui demandent un peu moins de concentration. Puis quand j'ai un gros cas complexe, bien, je me mettrai pas de clinique la veille. Tu sais, où je vais mettre. Tu sais, tu peux organiser ton horaire pour que ça soit agréable. Tu sais, c'est un contrôle que tu as sur ta vie quand tu es en pratique, que tu n'as pas quand tu es résident. Fait que pour la conciliation travail-famille, bien, si je décide que je prends 2 semaines de vacances avec les enfants puis qu'on part telle date, bien, tu sais, c'est ça, puis il n'y a pas vraiment de problème. Tu sais, si les enfants le lundi ils ont une partie de soccer, bien, je peux décider que ma clinique le lundi bien, elle va finir à 3 heures, tu sais, ou que mon bloc, ça va être des salles d'opération plus courtes, puis je vais finir à 4 heures, mais ce ne sera pas les cas qui dépassent puis qui finissent pour toujours, jamais. Là, tu sais. Donc, c'est possible, puis fait que, tu sais, moi, ma conjointe est gynécologue, fait qu'on a 2 horaires de médecin à faire. Fait que nous, ce qu'on s'est organisé, c'est que moi, mes cliniques, mes activités commencent à 9 heures. Tu sais? Fait que le matin, c'est moi qui fais la routine avec les enfants. Hein? Puis moi, je rentre à l'hôpital à 9 heures. Tu sais? Puis je finis à 5h, 5h30. Puis elle a fini plus tôt, elle commence tôt, puis à 4 heures, elle finit ses affaires, puis elle va chercher les enfants. Tu sais? Fait que on a le pouvoir d'arranger ça, tu sais. Ce qui n'est pas quelque chose que tu peux faire pendant la résidence.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que la conciliation travail-famille, elle est difficile pendant la résidence. Puis ça prend une famille conciliante, là, une conjointe ou conjoint qui comprend, puis avoir la foi que c'est un état temporaire. Mais après ça, quand tu gradues, là, c'est vraiment plus facile. Beaucoup plus en neurochir que même en gynéco.
Ouais.
Parce que moi, en neurochir, j'ai 7 jours consécutifs de garde, mais sur les 7 jours, la garde est à la maison. S'il y a quelque chose, je vais y aller. Puis, tu sais, je vais opérer 3 nuits peut-être, un petit cas une fois, une par-ci par-là, sur les 7 jours. Alors qu'en gynéco, quand tu es de garde, c'est comme tu es dans l'hôpital. Puis les accouchements, ils n'arrêtent pas. Là. Fait que tu travailles toute la nuit. Fait que moi, à 60 ans, en neurochir, je vais travailler bien moins la nuit que ma blonde, tu sais,
ouais.
qui, elle, va quand même devoir se lever pour des césariennes urgentes à 1h du matin.
Étiez-vous les deux en résidence en même temps?
Oui.
Quand même, oui.
C'est ça.
Ça quand même, ça dit, au moins, vous compreniez dans tout ça, ouais. Tu sais.
Il y a ça.
Puis là, c'est ça, mais ça me fait penser qu'on a vu que c'est comme 9 personnes sur 10 en neurochirurgie, c'est des hommes.
Mm-hmm.
Fait que, justement, là, ça m'étonne, on dirait, là, on entend que le mode de vie n'est pas si pire que ce que je pensais, en tout cas. Là. C'est quoi, pourquoi d'abord, selon vous?
Ça dépend des places aussi. Tu sais, si vous regardez, mettons, à Québec, il y a beaucoup de femmes, là. Tu sais, okay. Puis c'est... Je ne veux pas dire de statistiques comme ça, là, mais c'est au moins 30-40%, je pense, du département que c'est des femmes, là, au pif comme ça. Puis dans les résidentes aussi, il y avait beaucoup de filles. Je pense que c'est une question de modèle de rôle, plus que d'attrait de la spécialité. Là, la spécialité en tant que telle, ça change rien, là, tu sais, que tu sois un homme ou une femme, puis l'horaire que tu te fais après, puis qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, je pense que c'est tout à fait accessible aux deux. Il y a des places comme à Montréal, où c'est... Puis McGill, puis Sherbrooke, en fait. Les trois centres, il y a, c'est juste des hommes, là. Il y a une femme à McGill, neurochirurgienne, puis une au CHUM. Fait que, c'est une minorité, mais je pense que c'est probablement appelé à changer. Puis à Québec, c'est vraiment, vraiment plus prévalent. Puis tu vois, dans les résidents, il y avait comme plus de résidentes à Québec aussi que dans les autres programmes, probablement parce que les étudiants de Québec sont habitués de voir des femmes neurochirurgiennes. Ouais. Puis ça leur donne un modèle de rôle que c'est possible, puis ça se passe bien. Puis donc, je pense pas que c'est un problème, puis je pense pas que la conciliation travail-famille devrait être trop un critère à long terme. Parce que c'est vraiment un problème qui est le temps de la résidence.
Ouais. Ouais.
Puis c'est vraiment pas pire que la gynéco, qui est comme juste des femmes. Là,
ouais,
c'est vraiment pire, là, la conciliation travail-famille en gynéco. Là.
Puis sinon, vous l'avez mentionné, donc il y a des centres de neurochir à Montréal, il y en a à Sherbrooke, puis il y en a à Québec aussi. Fait qu'il faut quand même... t'habites dans une grande ville ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a, vous allez parfois en région ou les gens de région viennent toujours à vous?
Ça dépend. Fait qu'il y a des centres universitaires de neurochirurgie qui sont dans le fond les 4 universités.
Mm-hmm.
Puis après ça, il y a des centres de neurochirurgie régionaux qui sont en... C'est plus défini par la quantité de services offerts que par le lieu. Fait que, par exemple, à Montréal, ben, tu as de la neurochirurgie à Maisonneuve. T'sais. C'est un centre régional, même si c'est à Montréal. Tu as de la neurochirurgie à Longueuil. Tu as de la neurochirurgie au Jewish. Fait que sur l'île de Montréal, tu as des centres où tu as des traitements de sur-spécialité qui sont dans le CHUM puis à l'Institut de neuro. Puis dans le reste du Québec, ben c'est à l'Enfant Jésus à Québec ou au CHU à Sherbrooke. Puis après ça, les autres centres font de la neurochirurgie plus générale qui va être typiquement tous les traumas, les segments intracrâniens simples qui ne nécessitent pas d'intervention endovasculaire, les tumeurs simples, fait que tu sais, les métastases, les gliomes de haut grade. Puis après ça, le reste va être référé dans les centres tertiaires,
okay.
Où là, tu as besoin souvent de plus d'infrastructures. Tu sais. C'est pas que les chirurgiens de ces centres-là pourraient pas le faire, mais c'est que si tu te lances, par exemple, à faire de la neurochirurgie vasculaire, ben ça prend pas juste un neurochirurgien qui est capable de faire ça. Tu sais, ça prend des neuroradiologistes qui sont capables d'interpréter des images plus funky. Ça prend un plateau d'angiographie dans lequel tu peux faire des coiling. Donc, c'est vraiment un travail qui demande une grosse infrastructure. Tu sais, de la chirurgie spinale, par exemple, ça te prend un scan intraopératoire pour faire des chirurgies complexes. Tu sais, ça te prend tout un kit avec des vis, plein d'instruments particuliers que tu dois avoir en consigne. Puis pour pouvoir les utiliser puis les avoir en consigne, il faut que tu aies un volume de cas suffisamment pour le justifier. Tu sais. Fait que, mais il y a de la neurochirurgie à Chicoutimi, il y a de la neurochirurgie à Trois-Rivières, à Gatineau, à Longueuil, qui sont tous des centres régionaux où si tu es un neurochirurgien qui veut une pratique régionale et générale, parce que c'est surtout ça l'attrait de ces centres-là, c'est que tu restes avec une pratique générale. Ben, tu peux aller à ces endroits-là. Fait que moi, par exemple, j'ai une pratique spécialisée en fonctionnel. Je fais que de la douleur, des troubles du mouvement, des troubles psychiatriques, de la spasticité. Je fais pas des tumeurs. Fait que quand j'ai une tumeur qui rentre sur ma garde, à moins qu'elle saigne, puis qu'elle est en train de mourir, puis qu'il faut que je la fasse en urgence, je vais la faire. Mais sinon, elle est référée à un collègue qui ne fait que de l'oncologie. Puis si tu as une belle tumeur qui serait le fun à faire, ben, tu la donnes à ton collègue que c'est ça sa job. Puis de la même manière que si l'autre personne reçoit une superbe névralgie du trijumeau, qui est une belle chirurgie à faire, qui aurait le goût de faire, ben, il m'adonne parce que c'est moi qui fais les névralgies du trijumeau. Fait que c'est des pratiques très, très, très spécialisées. Alors que l'avantage, c'est que si tu es dans un centre régional, ben, tu peux les faire. Puis c'est toi qui décides, es-tu à l'aise ou pas de les faire. Puis, si tu n'es pas à l'aise, ben là, tu peux la référer ailleurs, selon le niveau. Souvent, ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va avoir, par exemple, les gens à Chicoutimi pour les névralgies du trijumeau, ben, ils vont faire la première ou la deuxième chirurgie, tu sais. Puis, après ça, quand ça ne marche plus, ben là, ils nous les réfèrent pour le traitement de la récidive, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce d'équilibre qui se fait, mais c'est possible d'avoir une pratique régionale générale. Puis c'est possible d'avoir une pratique universitaire spécialisée. Ce qui est plus possible, c'est d'avoir une pratique universitaire générale.
Oui, comme dans beaucoup de spécialités, là, je pense, maintenant. Ouais. Puis je vais revenir un peu à votre sous-spécialité. Tu sais, vu que c'est pas nécessairement qu'il y a des conditions que vous pouvez comme avoir une cure complète, est-ce que vous êtes quand même capable d'avoir une grosse différence pré-pause? Mettons, avez-vous un cas en tête là, particulier?
Ben, en fait, c'était tout le débat de la chirurgie, en fait, pendant la pandémie. Parce que les chirurgies qu'on fait en chirurgie fonctionnelle, c'est souvent des chirurgies qui... Fait que prenons, par exemple, un tremblement essentiel. Okay? J'ai un patient, c'est un chauffeur d'autobus pour la Société de transport de la ville de Sherbrooke. Okay? Il y a un tremblement épouvantable. Puis là, il ne peut plus conduire l'autobus. Okay, à cause de son tremblement. Fait que là, il est en arrêt de travail, en invalidité permanente, puis le gars, il a 50 ans. Il va pas mourir de son tremblement. Il y aura pas de préjudice à ce qu'il y ait un délai dans le traitement de son tremblement. Mais ce gars-là, avec une chirurgie de 6 heures, il va arrêter de trembler. Puis il pourrait retourner travailler.
Pour lui, c'est comme la plus grosse différence.
Fait que pour lui, c'est toute la différence du monde. Tu diminues pas la mortalité. Tu diminues pas sa consommation de narcotiques, mais ce gars-là, tu le retournes au travail, puis tu lui redonnes 15 ans de vie de qualité. Versus un patient qui aurait, par exemple, un glioblastome, qui est une tumeur cérébrale incurable. Si tu ne l'opères pas, dans 3 mois, il est mort. Okay? Si tu l'opères, dans 18 mois, il est mort. Dans les deux cas, il va mourir. Puis, présentement, on a donné la priorité à ces gens-là parce qu'on veut que les gens aient accès à ça. Puis, cette personne-là, si on ne la traite pas maintenant puis qu'on retarde sa chirurgie d'un an, elle va avoir un préjudice, tu sais, puis elle ne survivra pas. Mais d'un point de vue plus froid, si on s'éloigne puis qu'on regarde ça d'un point de vue là, purement le bénéfice pour la société, on serait pas mal plus gagnant de mettre nos efforts dans le gars de 50 ans qui peut retourner travailler pendant 15 ans, que dans le glioblastome déjà retraité, qui va mourir de toute façon, mais qu'on lui donne 12 mois. Fait que c'est un débat, puis un dilemme éthique impossible à résoudre, parce que tout le monde mérite d'être traité. Tout le monde mérite d'être traité. Mais puis le bénéfice de sauver la vie de quelqu'un pendant 12 mois de sa tumeur incurable est beaucoup plus... concret et clair que de dire ben t'arrêtes de trembler parce que tu sais c'est un problème trembler dans la vie. Mais arrêter de trembler puis de retourner au travail pendant 15 ans, ben tu sais comme il y a une espèce de cumul de qualité de vie améliorée qui est extrêmement important. Fait qu'en chirurgie fonctionnelle, on a beaucoup ça, cette question-là pour la douleur puis les troubles du mouvement particulièrement parce que c'est des gens qui souvent pourraient retourner travailler, tu sais, mm-hmm. quand ils sont bien traités. Puis moi, il y a rien qui me valorise plus que d'avoir quelqu'un qui est complètement invalide puis tu lui fais son traitement puis là, bang, et elle redevient fonctionnelle, tu sais.
Ouais. Autant pour la société que pour cette personne-là, tu sais, sa qualité de vie.
Ben oui. Puis, fait quand on traite un tremblement, on ne guérit pas le tremblement essentiel, au sens où il y a encore une maladie dégénérative qui va continuer de progresser. Puis, mais on le recule de 15 ans dans l'évolution de sa maladie. Fait qu'on lui redonne un autre 15 ans avant qu'il revienne à l'état dans lequel on le rencontre. Mm-hmm. Fait que c'est quand même c'est spectaculaire. Puis quand on le fait avec des électrodes, la stimulation cérébrale profonde. Vous chercherez ça si ça vous intéresse. Là. Deep Brain Stimulation, DBS, là, ça fait des vidéos vraiment cool parce que le patient peut se mettre à on ou à off. Fait que là, il se met à off, puis là, il tremble comme ça, puis il ne peut pas rien faire. Il se met à on, puis il arrête de trembler, là, pouf, direct. T'sais? Puis dans la salle d'opération, tu le sais quand tu es à bonne place parce que quand tu allumes le courant, puis le patient, il arrête de trembler. Puis c'est la première fois depuis 20 ans qui est capable de prendre un verre d'eau sans en renverser, ils se mettent systématiquement à pleurer.
C'est tellement des beaux moments.
Puis tu le sais dans la salle d'op que tu as trouvé le bon spot dans son cerveau quand le patient se met à pleurer, puis dit regardez ça. Fait que c'est des moments qui sont vraiment, vraiment le fun, tu sais. J'ai une patiente qui a 40 ans, ça fait 20 ans qu'elle a un tremblement. Elle a une petite fille de 8 ans, puis un mois après sa chirurgie, je l'avais suivie, puis elle me dit, c'est la première fois de ma vie que je peux brosser les cheveux de ma fille. Tu sais? Fait que c'est ça que ça change, dans le fond. Mm-hmm. Est-ce que ça sauve des vies? La réponse, c'est non. Mais tu sais, c'est quoi la vie, tu sais? Ouais. C'est quoi la vie? La vie, c'est aussi vivre, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça que la chirurgie fonctionnelle permet. Puis tu as des chirurgies comme ça dans toutes les spécialités. Là, le concept des chirurgies fonctionnelles en neurochirurgie, c'est ça, mais ça existe aussi des chirurgies fonctionnelles dans les autres domaines où mettons, des patientes qui ont des descentes de vessie, ils vont les remonter de certaines façons pour qu'ils arrêtent de se faire pipi dessus. Mm-hmm. Tu sais, il y a plein de chirurgies fonctionnelles en orthopédie, ils ont la même chose. Tu sais, des gens qui ont de la spasticité ou des courbatures tellement épouvantables qu'ils ne peuvent plus fonctionner, mais ils vont casser les os, faire des arthrodèses pour que fonctionnellement, ils soient capables de s'habiller ou faire des choses. Fait que ce concept-là existe dans toutes les disciplines, mais c'est un petit peu moins connu, puis c'est extrêmement valorisant puis le fun à faire. Là.
Non, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux étudiants qui, comme nous, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, dans quoi ils veulent aller?
Je dirais, allez-y avec le domaine que vous pensez que quand vous allez vous lever le matin, vous allez avoir le goût de voir cette pathologie-là. Puis, mettez pas trop d'emphase sur la logistique, puis c'est-tu difficile de m'y rendre, puis qu'est-ce que ça prend comme prérequis, puis c'est quoi les heures, puis c'est quoi le... Je pense que ce qui compte le plus, c'est d'aimer ce que vous faites, puis d'avoir des patients, puis des maladies que quand vous les voyez, vous avez le goût de les traiter. Puis après ça, la logistique puis l'horaire, ça s'arrange. Mm-hmm. T'sais, c'est, vous pouvez faire votre propre horaire quand vous êtes en pratique. Vous pouvez décider que vous allez faire plus de recherche puis moins de chirurgie. Vous pouvez décider que vous n'en ferez pas de la recherche puis vous allez faire juste de la clinique. Vous pouvez décider que si vous, ce qui vous intéresse, c'est le côté humanitaire, bien, vous allez faire cette maladie-là au Nunavut ou en Afrique ou peu importe. Mais ce qui compte, c'est quoi la maladie puis la clientèle que quand vous les voyez, vous avez le goût de faire quelque chose puis que leur problème vous allume puis que vous avez le goût de le régler. Puis si vous arrivez à trouver ça, bien, la spécialité va s'éclaircir. T'sais? Puis ensuite, la logistique, ça s'arrange, ça. La résidence, c'est un moment à passer, mais après ça, quand la résidence finit, vous avez un contrôle sur votre pratique. Puis je regardais justement la liste de vos podcasts, puis les gens en médecine de famille qui avaient plein de pratiques différentes, puis ça se personnalise, ça, même dans les spécialités. Fait que dans les spécialités, vous pouvez dire que vous allez faire juste de la pédiatrie, vous allez faire juste de la douleur, vous allez faire juste des troubles psychiatriques en neurochirurgie, là, tu sais, ou en neurologie. Ou... Fait que commencez par trouver quel malade vous ne serez pas exaspéré de voir tôt le matin quand vous n'avez pas dormi la veille, là. Quelle maladie vous vous levez puis vous vous dites « Hey, ça, c'est vraiment un problème que j'aimerais régler. » Puis la spécialité va venir après. Puis il y aura plusieurs spécialités qui s'y prêtent. Tu sais, si ce qui vous fait triper, c'est un, je sais pas moi, l'AVC, ben l'AVC, ça s'approche en radiologie. L'AVC, ça s'approche en neurointervention. Ça s'approche en neurologie. Ça s'approche en physiatrie pour la réadaptation de l'AVC. Ça s'approche en orthopédie, tu sais, pour la correction des contractures. Fait que trouvez la maladie qui vous intéresse, puis ensuite, les spécialités vont devenir claires.
Ça va tout se placer de même.
Excellent. Puis vous disiez qu'à votre laboratoire, vous cherchez des fois des étudiants, c'est ça?
S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent... Le laboratoire, on travaille sur plusieurs projets, notamment... un peu toutes les techniques dont je vous ai parlé, le gamma knife, la stimulation cérébrale profonde. Puis, un des gros pans de recherche qu'on a, c'est d'utiliser des électrodes pour restaurer la fonction neurologique après des traumas médulaires. Fait que faire marcher des paraplégiques avec des stimulateurs, avec des ordinateurs. Okay. Donc, c'est des programmes de recherche qui sont en cours. Fait que si vous avez des auditeurs qui sont intéressés... on recrute toujours des PhD, des maîtrises, puis des stagiaires. Là. Donc, écrivez-moi, puis...
Parfait. Pour les auditeurs, vous pouvez nous contacter, puis on pourra vous transmettre le email si ça les intéresse.
Excellent. Ben, merci beaucoup. Ça a été
Merci à vous. Tout le plaisir pour moi. Énormément.